La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis du nou folle poupeio, se trapo pescami, di l'usan de l'aspero, di l'ucau del rasi, di la mar de l'albiero, se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor de las bestio, di l'umbro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis,
Michel Bonnet, bonjour. Donc 14-18 en pays cordé. Et aujourd'hui, nous continuons avec les archives départementales dans le cadre de notre découverte des archives, bien sûr, mais aussi de l'exposition, l'excellente exposition présentée par les archives et qui se trouve en ce moment à la mairie de Cordes. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau une des spécialistes des archives, enfin une archiviste de métier, je ne vais pas vous la présenter, elle va se présenter elle-même, mais Madame Catherine Barthes, et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Madame Barthes, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc aux archives. On ne va pas vous redemander de nous dire exactement comme on avait demandé à Madame Echobard ce qu'étaient les archives. Mais vous, dans les archives, qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, moi, dans les archives, j'ai plusieurs missions. En particulier une qui est de m'occuper des archives modernes. Alors, que sont les archives modernes ? Ce sont les archives qui ont été produites entre 1800 et 1940. Et en particulier celle de la guerre de 14-18, voilà, et d'où mon propos aujourd'hui. Et je m'occupe également des archives notariales, les archives produites par les notaires, voilà, et des archives de l'état civil, donc les archives produites par les communes et qui permettent de faire en fait la généalogie, l'histoire des familles.
Donc vous avez un très gros travail et une connaissance du terrain, si on peut dire, assez précise.
Oui, c'est vrai que c'est de nombreux documents, voilà, qui sont diversifiés, mais qui se recoupent et qui permettent effectivement de faire des recherches et de les compléter les unes les autres.
Alors vous venez nous parler de 14-18, mais il n'y a pas que 14-18, donc si je comprends bien, dans disons le créneau sur lequel vous vous situez, et 14-18, vous vous intéressez spécialement à 14-18, pourquoi ?
Alors moi 14-18, personnellement, c'est une période qui me touche parce que j'ai un de mes aïeux, mon arrière-grand-père, qui est décédé à la guerre de 14-18, donc ça fait longtemps que je m'intéresse à cette période. Et en particulier parce qu'on m'a confié aussi la mission du classement des archives de cette période-là dans les administrations du département. Et donc, je fais ça avec entrain et dynamisme et passion aussi, voilà.
Et donc, qui dit 14-18 aujourd'hui dit centenaire et dit des tas d'activités au niveau européen, au niveau français, etc., dont en particulier le cœur, enfin ce qui le matériau de l'exposition, c'est-à-dire cette grande collecte. Qu'est-ce que c'est la grande collecte ? Vous nous redites ça un peu ?
Voilà, donc dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, l'opération Grande Collecte a été lancée en novembre 2013 nationalement par le service interministériel des archives de France, la Bibliothèque nationale de France et par la mission du centenaire. Donc cet événement avait pour objectif de sensibiliser les particuliers sur les documents de la Première Guerre mondiale, les documents qu'ils avaient en leur possession. Et on leur proposait de les apporter dans des lieux bien déterminés afin qu'ils soient numérisés. Donc les archives départementales du Tarn ont été désignées comme un point de collecte des documents conservés par les particuliers et c'était en fait le seul lieu du département reconnu au niveau national.
Et lorsque vous dites... ramasser, enfin collecter des documents. Le but numéro un, c'était d'augmenter vos archives ou bien, en même temps, de faire comprendre aux gens que ce qu'ils avaient était précieux, de leur donner l'occasion de réfléchir, etc.
Oui, le but, c'était de créer, en fait, une collection de documents privés, puisque ce sont des documents privés, sur cette période-là, et qui, en fait, en rendant hommage aux personnes qui avaient vécu et fait la guerre, et aussi avoir une image, une idée de ce conflit à travers les personnes qui l'avaient vécu, et pas seulement à travers les documents officiels des administrations.
Et on a bien répondu, vous avez l'impression que la population, ou au moins les Tarnais, ont bien répondu à votre attente ?
Oui, puisqu'on a eu plus de 270 personnes qui ont contacté les archives départementales, en 2 ans, donc de fin 2013 à ce jour. Et donc, nous avons eu plus de 400 soldats, en fait, plus de 400 documents sur les soldats du Tarn ou des départements de France.
Concrètement parlant, on aimerait savoir comment ça s'est passé. Vous avez lancé des annonces un peu dans les journaux, etc. Et puis les gens, quand ils vous ont contacté, supposons moi, j'ai un carnet et j'aimerais vous le passer. Bon, je vous envoie un coup de téléphone à Albi, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, quand nationalement il a été donc lancé cette opération, nous n'avions pas encore le matériel de numérisation approprié pour faire cette grande collecte. Mais nous avons quand même pris la peine d'organiser tout ça. Donc on a fait effectivement de la communication à travers les radios, la presse écrite et la télévision, en invitant les personnes qui avaient des documents et qui étaient prêtes à nous les confier pour la numérisation à nous contacter. Donc c'est ce qu'elles ont fait, nous avons établi une liste et on leur a également envoyé un courrier en leur expliquant qu'à partir du mois de février 2014, nous serions en mesure de numériser leurs documents, et cela sur rendez-vous. Parce qu'en fait, donc, on s'est rendu compte qu'il était important de faire un accueil de ces personnes particulières, individuellement, pour à la fois faire un point sur les documents qu'ils avaient, voir si tout était intéressant à numériser ou pas, et également faire un entretien pour qu'ils nous donnent des renseignements sur le soldat ou les soldats qui avaient participé à la Grande Guerre. Donc il faut savoir que on a fixé un rendez-vous par demi-journée, et que ce rendez-vous pouvait aller de 30 minutes à 2 heures, en fonction du nombre de documents à numériser et de l'importance des informations que pouvaient nous fournir les descendants du soldat. Alors, en fait, quand les personnes se présentent dans nos locaux, donc au jour et à l'heure qu'on leur avait donné, ils sortent les documents et on fait un premier état des lieux de ces documents. Voilà. Je redirai un peu plus tard quel type de documents on trouve. Et ensuite, on les classe un petit peu de manière par typologie et de manière chronologique. Mais très souvent, les contributeurs avaient déjà fait ce classement, ce tri, voilà. Et ensuite, en même temps, on prend des notes pour remplir une fiche de renseignement sur le soldat, son état civil, sa profession dans le civil, les membres de sa famille, ce qu'il a fait lorsqu'il était à la Première Guerre mondiale, enfin les lieux où il a combattu, s'il en est revenu, parce que beaucoup sont décédés sur le front, et ainsi de suite. Et lorsque on est à peu près prêt, un de nos collègues arrive et commence la numérisation des documents.
Donc c'est toute une équipe de votre côté qui, avec un travail bien précis, on est tout à fait dans le monde professionnel des archives où tout est bien programmé.
Voilà, en fait nous sommes 4 sous la direction de l'adjointe au directeur Sandrine Tesson. Nous sommes 4 pour cette grande collecte 14-18. Donc Valérie Gautran qui s'occupe plus de l'atelier de numérisation, moi-même pour plus le traitement des archives de cette période, et 2 collègues qui sont numériseurs, Romain Gallonnier et Fabien Kessial. Pendant que les collègues, soit Romain, soit Fabien, numérisent les documents, Valérie ou moi-même, nous continuons l'entretien et nous remplissions une fiche de notre logiciel d'archives où on met des renseignements qui vont permettre l'analyse de ces documents et de compléter surtout les informations sur le soldat.
Les soldats vont partir vers les champs de bataille. Il faut leur donner de l'entrain. Oh, le joli discours qu'un officier leur braille avant de monter dans le train. Ils sont là, plusieurs mille, en état de comprendre qu'on les emmène à l'abattoir. Mais chacun pense au fond de son cœur plein de cendres qu'il ne faut pas le laisser voir. Et devant l'imposteur qui leur monte la tête avec le 3-6 des grands mots, la boisson qui perd l'homme et réveille la bête étouffe leur dernier sanglot.
La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis d'une folie poupeio, se trapo pescami, di l'usan de l'aspero, di l'uca o del rasi, di la mar del albiero, se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor de las bestio, di l'umbro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis, o lupus in ofelio.
Dans ces rencontres avec les personnes qui vous ont amené du matériel, vous avez senti qu'elles venaient, bon, simplement pour vous aider, pour vous faire plaisir, etc. Ou bien est-ce qu'il y en a qui sont vraiment sensibilisés aux problèmes et qui viennent avec, enfin, disons, des réactions presque intimes avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de découvrir un peu l'attitude des personnes.
Alors, ces personnes, dans les entretiens que l'on a eus et les rendez-vous que l'on a vécu, que ce soit ma collègue ou moi, on a vraiment eu beaucoup d'émotions. Les personnes viennent avec... certaines ont connu, bien sûr, les soldats, puisqu'elles sont enfants, filles ou fils de soldats. Donc, des personnes relativement âgées, hein, oui. Quand même. Ou alors descendants, mais elles en ont entendu parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est chargé d'émotions. Et je me rappelle d'un rendez-vous en particulier avec une dame de 90 ans environ, originaire de Castres, Madame Barthès, qui est venue avec sa nièce et sa petite nièce pour nous porter des documents de son père, qui au front en plus avait un cheval et dont il s'occupait. Et quand elle nous évoquait certaines faits ou certaines périodes qu'il avait vécues, enfin certaines situations qu'il avait vécues, bah, elle avait les larmes aux yeux et il y avait beaucoup d'émotions dans sa voix. Et sa nièce lui disait « Allez Tati, sois courageuse ». Voilà. Mais on sentait que c'était pour rendre hommage. Ce qui ressort de cette grande collecte et de ces rendez-vous, c'est que les personnes veulent rendre hommage à tous ces hommes qui se sont battus pour la France dans ce conflit qui a quand même duré 4 ans. Et également, ils veulent aussi que ça ne se perde pas, voyez, que les documents, si un jour dans la famille, plus personne ne s'y intéresse, ou ils tombent dans l'oubli, ou ils sont détruits, enfin voilà, mais qu'il y ait une trace quand même quelque part pour que l'histoire puisse en profiter, et également pour rendre hommage. Ça, c'est important.
C'est une façon de garder vivant, en quelque sorte, ceux qui ont disparu, quoi.
Tout à fait.
Oui. Et dans ces rencontres-là, vous sentez en même temps que il y a une certaine liberté qui vous est donnée d'utiliser ces documents, ou bien au contraire, on les met dans un coffre-fort et on vous demande de les garder précieusement, mais sans trop les envoyer sur les ondes, comme on fait en ce moment, en quelque sorte.
Alors en fait, non, ces documents, c'est vrai que nous, si on a participé et si on participe toujours à cette grande collecte, c'est pas effectivement pour collecter des documents et après les mettre dans une pièce, enfin, ou sur un serveur et ne plus les utiliser. Nous, en fait, service d'archives départementales, notre premier objectif, c'est de certes collecter des documents, mais ensuite de les mettre en valeur et de les rendre disponibles au public. Mais pour cela, et pour être sûr qu'il n'y a pas de problème ensuite avec ses contributeurs et leurs héritiers, on leur fait remplir un contrat de cession des droits d'utilisation des images. Voilà. Donc sur ce contrat, il est bien dit que nous ne ferons pas d'utilisation commerciale de ces images. Et on leur demande, voilà, s'ils nous permettent de les rendre accessibles dans notre salle de lecture, de les utiliser dans le cadre de manifestations culturelles, soit des expositions, soit lorsque des communes font des expositions et s'intéressent à tel ou tel poilu, et si également on peut les mettre sur notre site internet. La majorité des personnes ont donné leur accord en totalité. Certaines n'ont pas coché une des cases, mais c'est vraiment minime sur la masse des documents. Mmh. Et nous respecterons leur choix et nous ferons en sorte, lorsque cela va être accessible dans le courant de l'année 2016 sur notre site internet, de respecter les volontés des uns et des autres.
On reviendra sur ce fait de mise en ligne, prochainement, mais vous devez avoir toute une série de documents. Vous pouvez nous donner une idée des différents types, si on peut parler de types de documents que vous avez collectés?
Alors moi, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de documents. Il y a des documents administratifs, qu'on peut appeler, tels que le livret militaire, que tout homme avait lorsque le service militaire existait en France, au moment où il avait 20 ans, le livret militaire. Il y a également le fascicule de mobilisation. Il peut y avoir aussi un certificat de bonne conduite, quand on était dans l'armée, ou voilà. De la correspondance entre l'administration militaire et le soldat, soit pendant le conflit, soit a posteriori, pour des histoires de pension ou de médailles, des citations et des attributions de médailles. Donc tout ça, ça constitue un groupe qui sont des documents officiels qui sont importants pour un militaire, mais qui n'ont pas vraiment une vie personnelle. Oui. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Hein. Et il y a un deuxième groupe où là, on a des documents beaucoup plus personnels, qui sont soit des carnets, des journaux, écrits au jour le jour par le soldat, où là, vraiment, il confie tout ce qu'il a au fond de son cœur et de lui, voilà, toutes les souffrances, ou tout ce qu'il a pu vivre. De la correspondance, alors là, écrite soit sur des cartes postales, des régions qu'ils ont traversées, ou des régions où se déroulent les combats. Donc là, on a à la fois, c'est vrai, le recto, on va dire, qui sont les images de ces cartes postales, et on a le verso qui est toute la correspondance. Ah, donc oui. Elles sont très riches d'un côté comme de l'autre. Et on a également des cartes postales qui représentent aussi des scènes humoristiques sur la guerre, Hein, voilà. Donc, soit pour la bonne année, soit pour un événement particulier, soit voilà. Et parfois des dessins affectueux. Mais on a aussi également des cartes postales militaires, hein, qui étaient en fait très certainement achetées ou données aux soldats par l'armée. Et puis, en dernier lieu, donc, dans cette correspondance qui est très, très importante, hein, et on a parfois des séries continues de correspondances pendant 3-4 ans, on a également des lettres. Et donc, quand ces lettres existent, elles sont importantes parce que la plupart du temps, elles sont relativement longues et racontent un peu plus que les cartes postales. Par contre, la correspondance, par rapport à ce que je disais sur les carnets et les journaux, il y avait la censure. Donc, on n'a parfois pas beaucoup de renseignements. Ils disent toujours « je vais bien, je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas, j'ai bien reçu votre paquet ». Voilà. Et dans l'autre sens, quand on a la chance d'avoir aussi les cartes que la famille ou les proches envoyaient aux soldats, mais il y en a beaucoup moins. On a surtout les cartes que les soldats envoyaient à leur famille. Mais dans l'autre sens, les soldats, s'ils ne les ont pas ramenées lors de permission ou s'ils ne sont pas revenus du conflit, ils ne les ont pas gardées parce que c'était lourd. Donc en plus de leur barda, ils ne pouvaient pas tout... Voilà. Eh ben, on a du côté de leur famille, voilà, il leur parlait des moissons, il leur parlait de la vie quotidienne. Et tout ça, je crois, cette correspondance a vraiment permis à ces hommes et aux familles restées au pays de tenir le coup et de, pendant ces 4 années de durs conflits.
Pour nous, c'est sûr que la partie correspondante est la plus accrochante, en quelque sorte, parce que bon, l'administration, on sait à peu près ce que c'est, quoi. Tandis que là, on se rend compte comment ils regardaient la tranchée quand je lis certaines lettres qui expliquent que on attachait sa gamelle à tel endroit, etc. On se sent presque sur place, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai, on arrive à rentrer dans la vie quotidienne de ces soldats qui étaient certes au front très souvent, mais qui avaient aussi des moments à l'arrière et où ils ont pu aussi fabriquer des objets. Donc, dans les documents qui nous sont apportés, il y a également beaucoup de photographies. Donc, des photographies du soldat seul en uniforme, en groupe. Pas tellement de photographies sur les lieux de combat. Il y en a quelques-unes, mais de photographies dans les tranchées, mais elles sont quand même relativement rares. Et certaines photographies sont aussi des scènes de la vie quotidienne. Par exemple, quand ils prenaient les repas, les activités qu'ils faisaient. Et quelques personnes sont venues avec des objets. Voilà. Alors les objets, on les a quand même numérisés ou photographiés. Et il y en avait beaucoup. C'était donc de l'artisanat de tranchées qu'on appelle des objets qu'ils ont fabriqués sur leur temps de repos, d'arrière, puisqu'ils ne pouvaient pas être 24 heures sur 24 à se battre. Enfin, voilà, il y avait des moments où ils étaient quand même au front, mais à l'arrière. Et donc, ces objets, ben, ça peut aller... ce sont souvent des douilles d'obus qui ont été sculptées, mais donc ça peut être des briquets, des porte-crayons, des coupes papier. Il y a même des rondes de serviettes, un quart en aluminium, donc c'était pour boire, pour mettre la boisson, des vases, des ceintures, enfin des boucles de ceinture. Il y a même des pipes en porcelaine. Voilà. Après, on a aussi des personnes qui nous ont apporté des armes ou des parties de leur paquetage. Donc, un casque, un képi, des épaulettes, des éperons, nécessaire pour se tailler la barbe, une gourde, un masque à gaz. Et on a aussi eu pas mal de plaques d'identification, puisque chaque soldat avait au poignet une plaque avec son prénom, son nom, sa classe, l'arrondissement de recrutement et son numéro matricule. Très important pour l'identification d'un corps lorsque le soldat a été décédé. Voilà.
Et dans un autre ordre d'idée, vous pouvez vous faire une idée de, comment dirais-je, de l'étalement sur le front des gens du Tarn, de ceux qui vous ont apporté, de, disons, tous ces souvenirs, etc. Vous sentez que ça vient d'un peu partout ou bien que... Il y avait des endroits plus particuliers. En fait, je suis peut-être trop précis avec une question comme ça.
Alors, c'est vrai que vous demandez voilà, une réponse précise, mais je peux donner un ordre d'idée. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est qu'on n'a pas eu que des soldats tarnés. On a accepté de numériser tous les documents qu'on nous a portés, quelle que soit l'origine du soldat. Parce qu'on a des soldats, des descendants plutôt aujourd'hui, qui sont dans le Tarn, et dont le soldat, enfin l'ancêtre, était tailleur. Bon, mais ils sont ici, ça leur a été pratique, on a pris. On a eu également des personnes qui habitent dans d'autres départements et dont l'ancêtre était tarné. Mais donc la majorité de ceux qu'on a eu, ce sont des tarnés. Et on peut dire qu'ils ont essentiellement combattu donc dans l'est de la France, soit dans la Meuse, Verdun, il y en a eu. Ensuite, dans l'Aisne, avec le chemin des Dames. Il y a eu aussi dans la Somme. Il y en a eu aussi qui ont été sur le front d'Orient. Donc à Salonique, en Grèce, il y en avait qui étaient également skier la bordure, le Bosphore, enfin tout ça, pas loin de la Turquie actuelle. Certains ont été prisonniers. Certains ont été faits prisonniers, en fait, dès le début du conflit quasiment, et ont passé 4 ans emprisonnés, soit dans ce qui est la Russie actuelle, soit dans des camps en Allemagne. Voilà. D'autres sont partis travailler, ont été prisonniers, mais travailler dans des fermes. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui serait intéressant, mais ça sera peut-être dans un deuxième temps, ou c'est peut-être un chercheur qui va le faire, ou quelqu'un qui va se passionner pour ça, c'est effectivement de situer un petit peu tous ces soldats, de situer en fait les lieux où ils ont combattu.
CFM, CFM sur le Pays Cordais. 94.7 CFM.
Tu as le sourire omnivore, l'appétit d'un soleil levant, un regard cru qui me dévore. Tu croques la vie à pleines dents, tu m'as croqué, évidemment. Tu m'as mordu, évidemment. Je suis mordu, par conséquent, je suis perdu. Tu m'offres le gîte, plante carnivore, et je te croque, fruit défendu. De croque en bouche, en croque en jambe, je t'ingurgite à la croque au ciel. Tu me grignotes comme un croque-note, je te suçote, tu caramènes. Et je te gobe, et tu m'enrobes, je te cajole, tu me rissoles, c'est croquignol. Je te pimente, tu alimentes une fringale fort peu frugale. morsure cuisante, cuisson ardente, sauce douce, amère. J'en démords pas.
Retrouvons maintenant Madame Barthes pour continuer à découvrir ce grand élan de souvenirs, en quelque sorte, qu'il y a eu dans notre population au sujet des souvenirs de 14-18, la grande collecte qui a été faite aux archives. Alors, Madame Barthes, cette grande collecte, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas la mettre dans un coffre-fort. C'est une façon de lui donner de la valeur, mais les banques, elles font ça, mais vous n'êtes pas une banque. Alors, vous avez pensé à valoriser cela, de quelle façon ?
Alors, on a pensé la valoriser de plusieurs façons. Déjà, donc, tous ces documents collectés, toutes ces images numérisées vont être mis en ligne, en lien avec la fiche de renseignement sur chaque soldat, sur notre site internet. Donc, c'est vrai qu'on avait pensé pouvoir le mettre en ligne beaucoup plus tôt que... Pour l'instant, ça n'y est pas, parce que y avait la demande. Et puis, c'était aussi pour rendre hommage à tout cet élan et tous ces contributeurs qui s'étaient manifestés. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il était important de renseigner au mieux ces fiches, notamment sur l'état civil des soldats, et de faire une relecture précise et poussée. Et c'est pour ça que, pour l'instant, nous n'avons rien mis en ligne. Bien sûr, si un lecteur vient dans notre salle de lecture et veut consulter ces documents, il n'y a aucun problème, nous le mettons à sa disposition. Donc nous pensons que, dans le courant de l'année 2016, nous pourrons mettre en ligne cet état de cet inventaire de la grande collecte, et également avec les images qui vont avec. Et très rapidement aussi, étant donné qu'on était en cours de collecte, mais qu'on avait envie de montrer tout ce qui existait et rendre hommage à tous ces soldats, a été préparée par mes collègues de l'Action culturelle une exposition. C'est celle qui est actuellement visible donc sur la commune de Cordes. Et cette exposition a été intitulée « À travers les lignes 14-18 », 100 ans après donc la grande collecte dans le Tarn. Parce que finalement, très souvent, on avait jusqu'à maintenant des expositions sur la guerre de 14-18, mais plus sur les déroulements, les conflits, les lieux où les armées s'affrontaient, enfin voilà. Mais on n'avait pas de témoignages de l'intérieur, on va dire, à travers donc ces journaux, cette correspondance, ces photographies prises sur place ou écrites par les soldats. Voilà. Et donc, cette exposition a été dans nos locaux pour la fin 2014, et maintenant elle peut s'emprunter gratuitement et être installée dans les communes qui en font la demande ou dans les structures qui la veulent, et vient de sortir donc pour le 11 novembre 2015 le catalogue de cette exposition, donc qui reprend tous les panneaux qu'elle comprend et qui est en vente aux archives départementales au prix de 10 €.
Je peux vous dire que je l'ai sous les yeux en ce moment et que c'est un merveilleux chapeau, hein. Des photos en pagaille, très bien illustrées, très bien expliquées aussi. Enfin, c'est l'exposition. On se retrouve à l'exposition, mais avec ce plaisir d'être chez soi, tranquillement assis. Évidemment, avec les tranchées, c'est différent. Mais on peut vraiment prendre son temps. C'est C'est vraiment intéressant. Je me permets de le recommander à tout le monde. Et facile à se procurer. Et donc, n'hésitez pas à travers les lignes 14-18. Il faut pas seulement venir voir l'exposition ici, à Cordoue ou ailleurs, hein, mais là, c'est vraiment quelque chose pour tous ceux qui sont liés d'une façon ou d'une autre à la guerre de 14-18. C'est vraiment un document intéressant. Autre chose sur la valorisation que vous auriez en projet?
Alors, en projet, alors c'est pas vraiment de la valorisation, mais on est toujours dans la grande collecte, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les rendez-vous quotidiens, puisqu'on en a eu jusqu'à 4 par semaine, hein, quand on était vraiment au cœur du projet. Mais bien sûr, si encore vous avez chez vous des documents, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des documents, qui n'hésite absolument pas à nous contacter, et nous ferons un plaisir de recevoir la personne pour avoir... ces documents-là. Et également, on a ouvert un peu plus, une autre équipe s'est mise en place, parce qu'on a eu des questions sur les autres conflits, hein, où il reste pour certains encore des témoins vivants. Et donc, cette grande collecte, on la propose également, si certains ont des documents, pour la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, voilà. Pour la valorisation sur la grande collecte, ben, d'abord, on essaie voilà, de vraiment finaliser cet instrument de recherche, la mise en ligne de ces images, avant de voilà, se lancer sur autre chose.
Dans cette grande collecte et ce regard sur l'histoire que vous avez à travers ce qu'on vous donne, vous sentez qu'apparaît une autre vision que celle qu'on a habituellement dans avec les historiens. Bien sûr, les historiens, ils travaillent aussi avec les archives, mais ça donne quelque chose de une vision un peu différente d'après vous. Vous sentez cela, quelque chose qui vient par l'intermédiaire du front, non pas directement du front, mais passer par l'intermédiaire de l'arrière en quelque sorte.
Tout à fait. C'est vrai que je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais je vais peut-être aller un peu plus loin. Ces documents et cette vie, en fait, d'hommes, et également dans l'échange qu'ils avaient de la correspondance avec leur famille, permet effectivement de rentrer dans l'histoire, on va dire, un peu par le bout de la lorgnette, en fait, de ce conflit, et aussi de cette époque, de cette vie qui a continué malgré tout à l'arrière, et aussi pour tout ce qu'ont vécu ces soldats, parce que bien sûr, les reportages qui existent, les livres qui ont été écrits, l'histoire officielle nous a donné des témoignages, mais là, on a quand même des souvenirs, enfin des précisions beaucoup plus sensibles et beaucoup plus importantes, en fait, avec des sentiments, voilà, beaucoup d'émotions. Et il y a des personnes qui encore aujourd'hui elles peuvent pas évoquer leur ancêtre ou cette période sans avoir, comme je le disais, les larmes qui viennent aux yeux, trembler. Enfin voilà, il y a des familles qui ont été vraiment marquées par ce conflit. Enfin, je pense que chaque famille a été touchée parce que il y a eu beaucoup d'hommes qui sont partis, beaucoup sont pas revenus. Certains sont revenus, mais mutilés, nerveusement détruits. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est important. C'est un hommage, je trouve, qui n'avait pas encore eu lieu. Et pour les 100 ans, pour le centenaire de ce conflit, où il reste plus, c'est vrai, de personnes qui l'ont vécu en direct, c'est très important et bien d'avoir eu cette idée de faire appel à l'histoire privée, aux documents privés, aux documents personnels.
Une chose que je trouve intéressante dans ce travail-là, et notamment dans l'exposition, évidemment, c'est que chacun d'entre nous, quand on a une lettre ou une carte, on peut la comparer avec, on la met en quelque sorte en ligne, en perspective avec d'autres. Et ça me paraît extrêmement intéressant parce que il y a quand même une chose dans les contacts que j'ai avec cette, avec ce centenaire, ces animations, etc. C'est que on est tous assez pas perturbé, mais interrogé par le fait qu'on a eu du mal, quand les poilus étaient encore vivants, quand nos parents, mon père, mon grand-père, c'est le cas, j'ai connu mon père, j'ai connu mon grand-père qui était charretier, enfin, etc. Quoi. On a eu du mal, il ne parlait pas. Et donc, là maintenant, chaque fois qu'on peut trouver un moyen de sortir du silence, en quelque sorte, on est content, on découvre un peu sa famille et on découvre ces conditions de combat qui étaient terribles, quand même.
C'est vrai que ce qui ressort des témoignages des uns et des autres, c'est que ces hommes ne parlaient pas, vraiment peu. Certains, oui. Il y a des personnes qui se disent, si, moi, mon père ou mon grand-père m'a parlé. Mais souvent, c'est parce que ils ont été sollicités. De même, c'est vrai qu'ils ne racontaient pas. Parce que je crois que c'est pas qu'ils voulaient pas que ça se sache ou que, mais on n'était pas dans un devoir et dans un de mémoire comme on est aujourd'hui. Oui. C'était trop à fleur de peau, c'était trop sensible. Et donc effectivement, maintenant, avec ce recul et puis le fait peut-être aussi qu'il y a plus de personnes vivantes, on a ce besoin de rendre tout ça, voilà. Et ce qui est intéressant, je me dis, il y a certes dans cette grande collecte, ça va peut-être susciter des vocations de chercheurs ou autre, c'est ce que vous disiez par rapport à une lettre qu'on peut comparer à une autre et autre, c'est que peut-être à travers ces documents, certaines familles vont se rendre compte que leur père ou leur grand-père était au même endroit où se sont peut-être connus et rencontrés parce qu'ils étaient soit dans le même régiment, soit parce qu'ils ont combattu au même endroit. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que quand ça va être au public, enfin qu'on va pouvoir le consulter, je pense que tout ça, ça va peut-être faire que des liens a posteriori vont peut-être se créer, ou pas du tout. Mais on va se rendre compte que finalement, un tel et un tel, qui aujourd'hui ne se connaissent pas, mais leurs ancêtres se connaissaient.
Justement, juste une anecdote, on arrive à la fin de l'émission, mais pour être un peu plus, pour être décontracté en quelque sorte, pas plus tard que le 11 novembre dernier, donc c'est pas vieux, ici, à côté de Cordes, à la commune de La Barthe-Blaise, il y a eu la fête la commémoration du 11 novembre, etc. Et une des personnes de notre équipe, a présenté ce qu'elle avait fait sur la recherche sur les poilus de La Barthe-Blaise. Et il a parlé de son ancêtre. Et ils ont découvert qu'il y avait dans l'assistance, dans un autre village, un parent qui était, ils étaient tous les deux parents à travers ce poilu. Je trouve ça formidable.
Oui, je pense que ça va être un grand élan et de rencontres et de découvertes de ces liens à travers ces soldats et qui rendra peut-être un peu plus supportable tout ce qu'ils ont enduré.
Donc, il n'y a plus qu'une conclusion, c'est que toutes ces richesses que vous avez, il va falloir que vous veniez nous les faire partager encore un peu plus. J'espère que vous trouverez le temps et le moyen, ce qui serait intéressant. Je pense pas que ça soit un secret entre nous, mais vous me donniez l'impression, en privé, que il y avait des documents qu'on pourrait utiliser pour présenter une famille, par exemple deux ou trois lettres de la même famille, etc. Alors, j'ai envie de dire, on vous attend la prochaine fois pour approfondir ces archives. Un mot en conclusion, Madame Barthes?
Écoutez, voilà. En conclusion, je pourrais dire que ça a été un grand succès, cette grande collecte, et qu'on est toujours à la disposition de qui veut nous confier les documents, et que c'est vraiment une grande richesse de pouvoir rentrer dans ce conflit à travers ces documents personnels.
Merci beaucoup aux archives du Tarn, à toute votre équipe, même si on ne connaît pas chacun, évidemment. Et merci beaucoup à vous d'être venu spécialement à Cordes pour nous faire part de cette expérience. Au revoir, Madame Barthes.
Avec grand plaisir. Au revoir. Inferior.
Présentée par Michel Bonnet.
Venez découvrir comment la Grande Guerre a été vécue dans notre région. Nous le faisons en collaboration avec les archives du Tarn, les associations qui s'occupent du patrimoine et de l'histoire locale, la Talvera et bien d'autres.
14-18 en Pays Cordel, le lundi à 13h, rediffusion le dimanche à 11h.
Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu.